Vous écoutez RTL.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Et bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de l'heure du crime avec Perrine Suquet, avec Margot Agnès. Aujourd'hui c'est Marc Bisset qui est aux manettes de l'heure du crime. Enfin lui c'est la technique, hein. Je ne veux viser personne. Et à la une de l'émission, vous l'avez entendu, une émission sur un serial killer qui a véritablement plongé dans l'horreur, l'inquiétude, l'hystérie et la psychose la ville de New York au milieu des années 70, et nous allons parler de cet homme que la police new-yorkaise a mis plus d'un an à arrêter, qui écrivait aux journaux, qui écrivait au chef de la police, un peu comme le faisait à son époque Jack l'Éventreur. Il faisait cela pour annoncer ses crimes. Il choisissait toujours des victimes qui avaient des points communs sur lesquels nous reviendrons dans un instant avec mes invités. Et le point de départ de l'émission, il faut que je vous le dise, c'est un livre qui paraît aujourd'hui, figurez-vous, aux éditions Ring, un livre écrit par, j'allais dire, un maître du roman policier, mais là, on n'est pas dans la fiction. Le livre s'intitule « Fils de Sam », parce que c'était comme cela que ce tueur en série signait les lettres qu'il envoyait donc à la police ou aux journalistes même, parce qu'il écrivait directement, ça on vous le dira, un journaliste pour lui donner des détails. L'auteur de ce livre qui paraît aujourd'hui sous le titre « Fils de Sam » aux éditions Ring, c'est Michael Mention. Bonjour.
Bonjour Jacques, merci pour l'invitation.
Alors merci d'avoir accepté, parce que je dois dire que j'ai plongé dans ce livre et que, évidemment, c'est comme un polar. On peut pas dire le contraire, hein, parce que tout est exceptionnel dans cette affaire. On y revient dans un instant. Près de vous, quelqu'un qui connaît bien l'intimité d'un certain nombre de tueurs en série, qui est incollable sur le sujet, Stéphane Bourgoin.
Bonjour Jacques.
Alors, on va dire tout de suite, très vite, cette psychose dans la ville de New York, vous l'avez vécu à l'époque, vous étiez là-bas, aux États-Unis,
hein? Oui, tout à fait. Moi, je vivais à l'époque 155 Est 55e rue, entre Lexington et la 3e avenue, et j'ai vécu pendant toute l'année des crimes du fils de Sam, avec aussi un contexte très particulier de la délinquance et oui, des homicides qui étaient parmi les plus élevés de toute l'histoire criminelle aux États-Unis, et aussi un événement qui s'est déroulé pendant les crimes qui ont encore ajouté à la psychose, c'est le fameux blackout
du
13 au 14 juillet 1977, avec des émeutes partout à New York, et c'était vraiment la folie furieuse.
Des émeutes et des pillages.
Des pillages, à peu près, je crois, plus de 1500 magasins pillés, et c'était en plein dans la série criminelle de Berkowitz, le fils de Sam.
Et plus tard, on y reviendra, vous avez rencontré David Berkowitz, puisque c'est le nom de ce tueur. On a été stupéfait au bout d'un an quand on l'a arrêté, parce qu'il avait à peine 25 ans. Alors, Michael Mention, on va revenir à cet homme, à sa personnalité, aux questions qu'on se pose à son propos. Est-ce qu'il était fou? Est-ce qu'il n'était pas fou? Et quand je disais que tout est exceptionnel dans cette affaire, c'est aussi le nombre de policiers mis sur le terrain par les autorités. C'est énorme.
Oui. C'est vraiment une histoire qui est vraiment stupéfiante. Il faut savoir que l'affaire du fils de Sam, c'est l'une des affaires criminelles les plus extrêmes de toute l'histoire des États-Unis. Mmh. On en parle encore aujourd'hui parce que le dossier est rouvert depuis 96.
À cause d'un journaliste, oui, ça on en parlera, qui a fait une nouvelle enquête. Et un procureur donc qui a ouvert officiellement une enquête pour savoir si le fils de Sam était bien seul à tuer. En fait, s'il n'a pas tué pour une organisation qui pourrait être une secte satanique. Hein.
Voilà, exactement. Donc en fait, entre 76 et 77, David Berkowitz, 24 ans, résident à New York, se sent harcelé par les aboiements des bergers allemands de son voisinage. Pour lui, ce sont des démons qui lui ordonnent de tuer. Alors,
Pardonnez-moi, mais l'un de ceux dont il se plaint à cause des aboiements de son chien s'appelle Sam.
Il s'appelle Sam, exactement. Hein. Il s'appelle Sam. Donc, ça paraît fantasque comme ça. Le problème, c'est que, en fait, il perçoit réellement ses aboiements comme des ordres. Il prend son revolver, il sort dans la rue et il se met en quête de couples dans des voitures pour aller les tuer.
Alors, pas n'importe quel revolver. Hein. Là aussi, ce revolver, ça a été une des découvertes des policiers. Après, on va reprendre la chronologie des meurtres. 40, mais là on parle en général, un calibre 44, oui. C'est-à-dire en gros quelque chose qui fait des trous comme des assiettes, quoi, dans une porte ou malheureusement dans un être humain.
Oui.
Donc c'est une arme qui est faite pour tuer, quoi.
Oui, oui, exactement. Il tue à bout portant, il faut le savoir. C'est en ça également que Berkowitz se distingue de la plupart des tueurs en série. C'est qu'il ne choisit pas le corps à corps. Il tue à distance, même si c'est de manière très rapprochée. Il a aussi le profil de quelqu'un qui est plus un pauvre type, on va dire, qu'un tueur emblématique comme Ted Bundy ou Schaeffer. C'est plus quelqu'un qui n'a jamais eu de chance dans sa vie et qui se retrouve suite à des mauvaises rencontres et surtout au contexte particulièrement schizophrène de l'Amérique de l'époque, qui était à la fois dans le disco, les paillettes, et puis qui digérait son échec au Vietnam avec la crise économique, l'assassinat des frères Kennedy. Donc c'est vraiment Berkowitz, c'est vraiment à l'image de son pays en crise à cette époque-là.
Ouais. Alors évidemment, on retiendra également Stéphane Bourgoin le scénario, parce qu'il y a toujours une signature au crime des tueurs en série. Lui, il s'attaque spécifiquement à des couples en général de jeunes gens qui flirtent dans leur voiture, parce que c'est cette Amérique aussi des années 60, milieu des années 70, où ben il y a dans chaque ville ce que les gens appellent c'est l'allée des amoureux, quoi. En fait, c'est derrière un stade. C'est toujours dans un quartier, finalement, enfin soit dans la pénombre, sauf une fois malheureusement, mais souvent dans la pénombre, dans un endroit où on se fait pas trop remarquer, et puis on se bécote dans la voiture, quoi.
Oui, parce que l'Amérique est encore malgré tout puritaine, donc les jeunes gens habitent encore chez leurs parents, sont moins émancipés qu'ils peuvent l'être maintenant, et donc ils font l'amour dans des véhicules garés dans des impasses, dans des parcs, et c'est typiquement ce type de couple que Berkowitz va cibler, et notamment des jeunes femmes aux cheveux très longs.
Oui, alors voilà, certaines ont pensé que c'était les blondes, alors elles se sont fait teindre en brunes, mais en fait c'est ça, et ça a sauvé la vie d'ailleurs d'une des victimes, oui. Parce que son amoureux était un garçon qui avait lui aussi les cheveux très très longs, et le tueur l'a pris pour une femme, quoi, et il l'a tué. Peut-être encore un mot sur sa manière de faire, Michael Mention. Il a cette arme, donc ce Colt 44, qu'il dissimule en général dans un paquet comme les paquets qu'on donne dans les supermarchés, aux États-Unis, c'est-à-dire un sac en paquet. Oui. Il s'approche, donc il repère quand même ses proies, même s'il les choisit par hasard. Comment ça se passe? Il rôde la nuit dans les rues.
Il sort de chez lui
avec sa voiture.
Il sort de chez lui parce qu'en fait, il n'en peut plus de rester enfermé chez lui, parce que ses aboiements soi-disant démoniaques le hantent vraiment. Donc il sort de chez lui pour assouvir l'envie de ce démon ou de ce prétendu démon. Donc il sort, il cherche, il rôde en voiture. Et il trouve des couples et il frappe au hasard.
Il arrête sa voiture, il garde sa voiture. Oui. Il a, alors, il faut dire, on peut dire la marque de sa voiture et la couleur de sa voiture, c'est important pour
lui. C'est une voiture jaune. Une Ford Galaxy.
Ford Galaxy jaune. Voilà. Oui.
Et il repère.
Stéphane Bourgoin.
Toujours, il me le dira 15 ans plus tard, lorsque je l'interroge en prison. Il repère avec soin les lieux au préalable. Il y va 3-4 fois avant de sélectionner un endroit, à différents horaires, pour voir s'il y a beaucoup de passants, s'il va être tranquille ou pas. Donc tout est vraiment très organisé, et des soirs où il veut tuer, et quand il y a du monde, il ne le fait pas, parce que il sait qu'il pourrait se faire prendre.
Voilà donc la véritable histoire du fils de Sam à la une de l'heure du crime, à l'occasion de la sortie aujourd'hui de ce livre signé Michael Mention, qui est également donc mon invité avec Stéphane Bourgoin. Fils de Sam, avec ce sous-titre, été 1977, bienvenue à New York, sa jeunesse, ses discothèques, son serial killer.
L'heure du crime sur RTL.
Entre l'été 1976 et l'été 1977, un tueur rôde dans sa Ford Galaxy jaune dans les nuits de New York. Il change de quartier, il change de victime. Il se dit hanté par les aboiements d'un chien qui lui ordonne de tuer. Ce chien s'appelle Sam, et dans les lettres qu'il adressera à la police, mais également à la presse, il signera ces lettres, le fils de Sam. C'est cette histoire qu'on vous raconte à travers travers donc le livre de Michael Mention qui paraît aujourd'hui. Je crois que c'est la première fois que les éditions Ring donc publient ce livre. Je crois que c'est la première fois d'ailleurs, Stéphane Bourguin, je pense sous votre contrôle, qu'il y a un tel dossier sur le fils de Sam publié en France.
Hein. C'est le premier français sur cette affaire. Oui. Il y a eu des numéros de Affaires criminelles, une revue qui était parue dans les années 90.
Mais enfin, c'est la première fois qu'il y a un livre de fond
complet.
Vraiment. Oui. Et on n'en a pas encore parlé. On va le faire tout de suite avec l'auteur, avec Michael Mention. C'est un livre. Vous auriez pu l'intituler dans la tête du tueur, mais le titre était déjà pris. Oui. On est véritablement dans la tête du fils de Sam dans votre livre. Parce que c'est lui qui parle. Vous osez, si j'ose dire, parler à la première personne, mais j'ai dit que vous étiez auteur de romans policiers par ailleurs, mais vous n'avez rien inventé.
Ah non, tout est vrai.
Alors tout ce qu'il dit,
tout est vrai.
Il l'a dit.
La moindre étape, qu'elle concerne Berkowitz ou les enquêteurs ou le ressenti des victimes, tout est vrai. Le moindre événement, que ce soit sur le plan familial, sur le plan affectif, au niveau de ses amours, son passage à l'armée, tout est vrai.
D'accord. Et dans ses propos, dans quand il parle puis au lecteur, hein, vous avez repris ses propos dans ses déclarations. Ont été très nombreuses, hein, je crois, Stéphane Bourguin.
Oui, tout à fait.
Il a beaucoup écrit après en prison. Hein.
Et comme moi, j'ai donné un petit coup de main à Michael pour
un gros coup de main
pour les informations. Je peux vous garantir qu'il n'y a pas un mot, pas une tournure de phrase qui est inventée dans le livre. Et pourtant, ça se lit comme un thriller.
Exactement. Alors, je disais tout à l'heure que tout est exceptionnel dans cette histoire. Reprenons le scénario, le nombre de morts, le nombre de policiers sur le terrain, la psychose, les femmes qui se font teindre, si elles sont blondes en brunes, et à la limite si elles sont brunes en blondes. Et autre moment exceptionnel au cours de la traque de ce tueur dans New York, la mafia va s'associer à la police de New York pour traquer le tueur. Pourquoi? Bah, d'abord parce que ça dérange ses affaires, mais on murmure que un parrain important de la ville de New York s'était décidé en fait à mettre ses hommes à la disposition de la police parce que il avait remarqué que les 6 victimes étaient toutes des jeunes femmes, alors en fait brunes, hein, pas blondes, mais brunes aux cheveux longs, et sa propre fille qui avait 21 ans, un sparin de la mafia, était une brune, une jeune brune de 21 ans, donc qui ressemblait furieusement aux victimes du fils de Sam. Alors, on va entendre un document RTL à ce propos. C'est un document qui date du 6 août 1977, c'est-à-dire quelques jours, en fait, avant l'arrestation du fils de Sam, à l'époque de ce document. On ne sait pas qui il est, l'enquête n'a pas progressé. Et vous allez entendre le témoignage d'une Française qui vit à New York, et elle est contactée par téléphone par Christian Mallard, et elle raconte cet épisode inédit sur l'antenne d'RTL. Oui, confirme-t-elle, elle a vu la police et la mafia inspecter le même véhicule dans sa propre rue.
Hier après-midi, au niveau de la 83e rue Uptown dans Manhattan, j'ai assisté à quelque chose d'extraordinaire. La police recherchait une Volkswagen jaune, parce qu'on suppose que le fils de Sam se sert d'une Volkswagen jaune pour se déplacer dans New York. La police a regardé ces Volkswagen pendant environ une demi-heure, trois quarts d'heure, et ensuite a quitté très rapidement la 83e rue. La police n'avait pas quitté la rue depuis environ 5 minutes que 5 ou 6 mafieux sont venus et sont restés autour de cette voiture pendant environ 30-45 minutes. Si à New York, aussi bien dans le domaine du crime que dans un autre domaine, on ne supporte pas la médiocrité. Et tout le monde va se mettre à la recherche du fils de Sam. Et tout le monde essaye d'obtenir quelque chose, un indice susceptible d'aider la police.
Voilà, donc au micro de Christian Mallard, qui travaillait à l'époque dans cette maison, RTL, le témoignage de cette femme. On retrouvera tout à l'heure, vous entendrez, d'autres documents signés aussi Christian Mallard, mais également la journaliste Roselyne Guillot, qui travaillait également à RTL à l'époque et qui se trouvait aux États-Unis, qui a fait un certain nombre de correspondances absolument hallucinantes après l'arrestation du fils de Sam. Un mot, Stéphane Bourgoin, sur cette atmosphère de panique dans la ville. On n'invente rien, là.
Vous n'inventez absolument rien. Même moi, je le sentais. C'était comme un personnage qui nous hantait dans les rues. Tous les journaux, quotidiennement, faisaient quasiment la une sur l'affaire du fils de Sam, à tel point que les restaurants étaient quasiment désertés, les salles de cinéma que moi je fréquentais quotidiennement là-bas, notamment la 42e rue, avaient pris pour habitude d'allumer les lumières pendant les séances. Il y avait un policier dans chaque salle de cinéma. Ils ont dépensé une fortune en heures supplémentaires, puisqu'il n'y a plus eu aucun congé pour aucun des policiers new-yorkais dans tous les quartiers, parce que Berkowitz avait tué dans le Bronx, à Queens, à Manhattan, à Yonkers. Donc on ne savait pas où il allait frapper. C'était vraiment incroyable.
Et d'ailleurs, Michael Mention, puisque dans un petit instant avec vous, on va reprendre le scénario d'un certain nombre de ces meurtres. Parmi les victimes, certaines, avant d'être assassinées ou d'être agressées, en tout cas par le fils de Sam, parlaient de lui dans leur voiture.
Mais de toute façon, cette histoire présente tellement de facteurs incroyables que si j'avais voulu inventer des choses, c'eût été inutile.
J'aurais été en dessous de la réalité.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que on trouve un couple dans une voiture qui parle du fils de Sam et il arrive une minute après. Et en fait, il n'y a que ça dans cette histoire.
Voilà. Deux autres victimes sont deux jeunes filles qui sont en train de dîner dans un restaurant justement vide. Vous le racontez livre.
Où elles suspectent,
elles ont hésité. Alors il y a un jeune homme qui vient leur faire du gringue à la table. Il est sympa, le suspect.
Le suspectateur, et finalement, c'est eux qui vont se faire agresser.
C'est-à-dire que lui, il tombe sous le charme de l'une des deux, et il lui donne rendez-vous le lendemain pour aller au cinéma, et là, c'est le drame, si j'ose dire. Alors voilà. Bon, on va donc faire une pause dans l'émission. Je vous rappelle, bien sûr, que si vous voulez en savoir plus, mais on essaye de vous en dire beaucoup, quand même, sur le fils de Sam, vous pouvez toujours appeler le 3210, le standard téléphone d'RTL. Pour les mails, les courriels, c'est toujours rtl.fr. Questions, réactions, témoignages éventuels, si vous viviez à l'époque aux États-Unis et spécifiquement dans la ville de New York. Et puis dans un instant, on va vous raconter cette série de crimes qui avait débuté le 29 juillet 1976.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL. L'heure du crime.
Le fils de Sam, c'est le nom que s'attribuait ce tueur en série qui a créé la psychose dans la ville de New York pendant plus d'un an entre juillet 1976 et août 1977. Fils de Sam, c'est le titre d'un livre qui paraît aujourd'hui aux éditions Ring, dont l'auteur Michael Mention est le lauréat du grand prix du roman noir français du Festival international de Beaune de 2013. Donc un habitué des scénarios inventés, mais comme il nous le disait tout à l'heure, il a fait une exception avec ce livre. Il est parti sur cette affaire de tueur en série. Et comme vous le disiez, il n'y avait rien à ajouter pour un auteur de fiction, parce que il y avait déjà tout dans l'histoire.
Tout était déjà dans l'histoire, donc tout est vrai, appuyé par des documents officiels de l'US Army, de la police, de New York, des photos, de nombreuses photos des victimes, parce que je tenais absolument à donner la parole aux victimes, des choses qu'on fait rarement, justement.
Et vous le faites dès le début du livre, en disant qu'une fois n'est pas coutume, pensons aux victimes. Il y en a eu 6, il faut le rappeler. Il y en a 15 au total qui ont été agressés, donc dont 6 ont perdu la vie. Alors, on peut reprendre. Alors, la première fois, en fait, on ne sait pas évidemment que c'est le fils de Sam, et on ne va pas le savoir pendant un certain temps. Mais là, on est le 29 juillet 1976. Qu'est-ce qui se passe, le premier meurtre?
Ce qui se passe, c'est que Berkowitz vient d'acquérir son arme. Il vient d'acquérir son arme il y a peu de temps, et cette nuit-là, il craque. C'est-à-dire que ça faisait déjà très longtemps qu'il prévoyait ou qui subissait les aboiements des chiens, des bergers allemands. Il a déménagé plusieurs fois pour fuir ses chiens, mais à chaque fois, il se retrouve notamment avec son voisin du dessous, qui a aussi un berger allemand. Et cette nuit-là, il craque, il sort, il prend sa voiture, il rôde dans New York. Et il se focalise sur deux jeunes filles dans une voiture. L'une d'elles s'appelle Donna Loria. Son père, de la fenêtre de l'immeuble, l'assomme de rentrer parce qu'il est tard.
Il est 1h du matin.
J'arrive. Et en fait, elle n'arrive pas parce que Berkowitz arrive il les tue.
Voilà. Alors elle va survivre ou non, elle va mourir dans son pendant elle son transport à l'hôpital malheureusement, et son ami Jody elle va survivre. Alors en fait son témoignage Stéphane Bourgoin est très difficile parce que là on imagine, elle parle dans leur voiture, la vitre en fait explose littéralement au moment du coup de feu, elles savent pas, on comprend que c'est pas le moment où on se dit on note des détails hein quand même, mais il y a quelques petits détails qui vont arriver aux policiers, sinon par les victimes, du moins par des témoins. On a vu une voiture jaune.
On a vu une voiture jaune. On a vu un homme qu'on décrit comme plutôt caucasien, assez rondouillet, pas forcément très très grand.
Ouais, cheveux bruns et bouclés.
Oui. Vous savez, les témoignages sont assez contradictoires. N'oublions pas qu'il est 1h du matin.
Ça, c'est Jody qui l'a vu, homme. Oui, oui. Et elle dit, en tout cas, je l'ai vu suffisamment pour savoir que c'était pas, par exemple, un amant éconduit de sa copine qui est morte, quoi. Alors, il y a évidemment, à partir de là, des analyses qui vont être faites par la police, etc. Et la balistique va donner un renseignement important. L'arme est terrible, quoi.
Oui, c'est une arme. On apprendra plus tard par recoupement que Berkowitz l'a achetée au Texas. Et pourquoi cible-t-il des femmes aussi? C'est intéressant de le savoir.
Oui, mais là, on ne sait pas qui cible des femmes. C'est la première fois.
Oui, c'est la première fois.
Donc, alors, d'ailleurs, on ne pense pas à un tueur en série du tout.
Non, pas du tout.
Parce qu'on est dans un quartier dans le nord du Bronx.
Qui est plutôt italien.
Ouais,
alors, avec une forte présence mafieuse.
Ouais, mm-hmm.
Donc, on se dit que peut-être cette arme. Une arme de poing, c'est peut-être utilisé par des tueurs à gages.
Donc ça aurait été un contrat de la mafia, on va dire avec erreur sur la personne, quoi. Bon, c'est la première hypothèse un peu
brûlante.
C'est
volante, la première théorie, Michael, effectivement. Hein, ouais. Oui, oui.
Bon, et puis alors le temps passe, mais pas très longtemps. Je crois que 3 mois après, hein, à peine, il y a le deuxième meurtre.
Oui, c'est 23 octobre 76.
Mmh. Oui, et cette fois-ci, il va rater son agression, enfin rater de son point de vue, c'est-à-dire les victimes ne vont pas mourir. Mmh. Bon, bien sûr.
Et là, on n'est plus dans le Bronx. Dans le Bronx, on n'est pas dans un quartier plus ou moins bien malfamé.
On est dans le Queens, donc il commence déjà à brouiller les pistes dès la deuxième agression.
Ouais. Le Queens, c'est un quartier de classe moyenne.
C'est classe moyenne, c'est résidentiel, aisée, hein. Voilà, c'est ça, voilà. Et donc il rate son agression. Ce qui est intéressant par rapport à Berkowitz, et c'est aussi en ça qu'il se distingue de la plupart des tueurs en série, c'est qu'il n'assume jamais ses crimes. C'est-à-dire que au moment où il se déplace pour tuer, il veut le faire. Il se sent porté par toute cette force démoniaque, en tout cas qu'il interprète comme telle.
Oui.
Mais lorsqu'il se retrouve chez lui, il souffre beaucoup de ce qu'il fait.
Oui,
voilà. Et sans ça, qu'il est profondément humain.
Oui, oui. Alors là, dans ce meurtre manqué, hein, puisque sont deux jeunes gens qui sortent d'un bar en fait et qui vont prolonger leur conversation dans leur voiture. Bon, on a compris. C'est là où ils se trompent parce que le garçon a les cheveux très longs et c'est sur lui qu'il va tirer. Il est à la place passager. Hein.
Il se trompe. Effectivement, il tire sur le garde.
Il le blesse assez grièvement, mais il ne va pas mourir. Oui, Stéphane Bourgoin.
Et en fait, les policiers, à ce stade-là, après cette deuxième double agression, ne font pas de lien entre les deux affaires. Mmh. Parce que c'est des groupes d'enquêteurs de quartiers différents qui travaillent, et ce n'est pas la même juridiction. Il faut comprendre que c'est lié un peu au fonctionnement de la police aux États-Unis, où il y a 16 000 forces de police indépendantes les unes des autres. Mmh. Et en plus, les balles sont complètement écrasées dans l'impact. Ouais. Et la balistique ne fait pas le lien entre ces deux affaires.
Voilà. Alors ça, c'est en octobre, hein, donc juillet la première affaire, octobre la deuxième. 27 novembre, cette fois-ci, on est toujours dans le Queens, dans le même quartier, Michael Mention, le 27 novembre 1976, donc il est pas loin de minuit, et là c'est deux lycéennes qui ont 18 et 16 ans, Joanne et Donna, qui sont assises sur les marches de la maison, elles sont pas dans une voiture, elles, hein.
Elles discutent sur les marches, c'est la nuit, elles sont devant le domicile de Donna de Massy. Berkowitz arrive et là, il monte d'un cran supplémentaire, c'est-à-dire qu'il pousse le vis jusqu'à les saluer.
Oui. Elles se disent, tiens, c'est un type qui traverse la rue, il va nous demander un renseignement, quoi.
Oui, exactement, c'est-à-dire il engage la conversation,
ouais.
Et au moment où elle leur répond,
Il sort son arme.
Exactement.
Et il tire. Il rate. L'une d'entre elles, malheureusement, finira sa vie en fauteuil roulant.
Finira paralysée.
Paralysée. Elle témoignera plus tard au procès. Donc ça, c'est le troisième meurtre. Alors, on va pas vous raconter les sept agressions, mais peut-être quand même vous raconter comment la police a commencé à comprendre qu'il fallait faire un lien entre ces différents, parce que c'est là que commence la psychose, Stéphane Bourgoin.
Hein, c'est à partir de ce moment-là, un lien est effectué par la balistique.
Déjà, oui.
Et deux affaires dans le Queens à quelques mois d'intervalle, c'est les mêmes enquêteurs. Voilà. Effectivement, ils font le lien, même si le mode opératoire est différent, avec un véhicule pour l'agression précédente dans le Queens.
Oui, un agresseur à pied.
Voilà, oui.
D'ailleurs, des témoignages sur le physique du tueur qui divergent, hein, à tel point qu'ils se demandent si deux personnes n'ont pas utilisé la même arme, puisqu'on sait que c'est la même arme.
C'est précisément le nerf du livre, c'est ça. C'est-à-dire que dès l'instant où la police commence à progresser, à bien faire son job, de suite, on se retrouve avec des fausses pistes.
Ouais.
On a, sur des portraits robots, des différences qui sont vraiment majeures, avec d'un côté quelqu'un sans moustache, avec les cheveux courts, et ensuite, soi-disant, le même agresseur avec des cheveux, une coupe afro et une moustache.
Voilà, des cheveux bouclés, des cheveux raides, un homme blond, un homme brun. Bon, on comprend que ça est considérablement compliqué la tâche de la police. Alors, il y a quand même ce moment extraordinaire, il faut en parler tout de suite. À quel moment, dans quelles circonstances, les policiers qui sont appelés parce que il y a un nouveau meurtre, découvrent au milieu de la rue, à quelques pas des personnes qui ont été tuées, une enveloppe qu'un policier va ouvrir avec cette lettre.
C'est juste après le cinquième crime. Effectivement, Berkowitz, de toute façon, de crime en crime, il monte en flèche, on va dire. C'est-à-dire qu'il comprend très vite qu'il est dans une impunité totale.
Mm-hmm.
Il comprend que les médias s'intéressent à lui, donc il veut en jouer et il défie, au travers de cette première lettre, parce qu'il y en a eu deux, il défie le chef, justement, de la police.
Qu'est-ce qu'elle dit alors, cette lettre ? Les circonstances, c'est quoi, Stéphane Bourgoin ? Les circonstances, c'est quoi ? Nouvelle attaque de personnes qui sont dans une voiture ?
Oui, oui, oui. Et puis il utilise des termes assez orduriers. Il se prétend quasiment invincible.
C'est très incohérent aussi.
Et invulnérable. Il y a ça, on ne sait pas s'il a fait volontairement beaucoup de fautes d'orthographe et de syntaxe. Enfin, ça paraît un texte assez délirant quand on le lit. Hein. Et d'ailleurs, la police pense immédiatement à utiliser les services de différents psychologues et psychiatres pour dresser un profil psychologique de l'assassin.
Est-ce que c'est celle-ci qui dit « Je dis au revoir et bonne nuit, police, que ces mots vous hantent, je reviendrai. Ceci est interprété comme bang, 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 bien à vous dans le meurtre, monsieur monstre. »
Voilà, c'est la première lettre.
C'est cette lettre-là, voilà. Alors on comprend là, évidemment, quand cette lettre va être publiée par la presse, et c'est ce qui va se passer, après une semaine de blackout, en fait, il y a un journal qui craque et qui publie évidemment cette lettre-là. On comprend comment cette atmosphère d'hystérie commence à envahir la ville de New York. La suite dans un instant.
L'heure du crime sur RTL.
Les invités de l'heure du crime, Michael Mention, l'auteur de ce livre qui paraît aujourd'hui aux éditions Ring, Fils de Sam, été 77, bienvenue à New York, sa jeunesse, etc., etc., son serial killer. Vous comprenez mieux, évidemment, qu'il n'était pas besoin de rajouter des chapitres inventés de la fiction dans cette histoire qui comporte tous les ingrédients d'un film noir et d'un thriller, d'un véritable thriller de la vie. Stéphane Bourgoin est également notre invité, et spécialiste des tueurs en série. Ça ne vous étonnera pas, il avait rencontré à l'époque, et il va nous en parler, Berkowitz, donc le fils de Sam, après son arrestation. Je voudrais là qu'on s'arrête sur justement la fin de l'enquête. Donc pendant plus d'un an, la tension monte, la psychose monte, on ne sait pas qui a fait quoi. Au moment où va s'opérer l'arrestation de Berkowitz, les policiers sont encore sur une fausse piste. Ils cherchent une Volkswagen jaune et non pas une Ford Galaxy jaune. Mais il y a eu un grain de sable dont on va parler dans un instant avec vous. Mais auparavant, on va entendre un nouveau document RTL. Bah, c'est, j'allais dire, le document du soulagement parce que RTL, depuis quelques jours, depuis le dernier meurtre, on suit l'affaire à travers les papiers de Christian Mallard et à travers ce qu'en dit aussi notre correspondante aux États-Unis qui s'appelle Roselyne Guillot. Et le 10 août 77, enfin, tout le monde respire. Le fils de Sam a été arrêté. C'est la fin d'une traque que tous les médias américains et maintenant français suivent comme un feuilleton. L'arrestation, eh ben, on l'apprend, mais vraiment à 7h du matin, en plein journal. Le journaliste s'appelle Élie Vanier et voilà ce qui se passe. Écoutez.
J'apprends à l'instant que le fils de Sam vient d'être arrêté. Le fils de Sam, c'est ce meurtrier américain qui a beaucoup fait parler de lui à New York depuis quelque temps. Nous avons en ligne immédiatement Roselyne Guillou.
Oui, et le son of Sam, le fils de Sam, vient d'être capturé il y a une dizaine de minutes par la police américaine. Aussitôt, toutes les boîtes de nuit et toutes les radios et télévisions viennent d'arrêter leur programme pour annoncer la nouvelle.
Alors ça, c'est vraiment, voilà, ça arrive souvent hein, dans la presse, et notamment dans la presse audiovisuelle. Donc, toute la journée, évidemment, les dépêches tombent, etc. Toutes les rédactions se mobilisent, celle évidemment d'RTL aussi. Et le lendemain, donc le 11 août, là, cette fois-ci, Roselyne Guillou prend un peu plus de temps pour donner les premières informations que la police a bien voulu donner à la presse sur l'identité de l'homme qui a été arrêté. Il s'agit d'un employé de la Poste de New York. Il s'appelle David Berkowitz. Écoutons ce qu'en disait donc le 11 août sur l'antenne d'RTL, Roselyne Guillot.
Il vient d'être arrêté sur une bêtise de sa part parce qu'il avait garé sa voiture illégalement devant une pompe à incendie qui est formellement interdite à New York. Et les deux policiers qui lui ont donné une amende ont remarqué le pistolet qui était placé derrière sa voiture. Ils l'ont attendu et lorsque David est monté dans sa voiture, ils l'ont arrêté. Le jeune homme n'a eu pour eux qu'un seul sourire, il n'a opposé aucune résistance et il a simplement dit « You got me, vous m'avez eu ».
Et brièvement, Roselyne, est-ce que vous pouvez nous tracer un portrait de ce fils de Sam ?
Ce fils de Sam, il est jeune, je vous ai dit, il a 24 ans, il a des yeux sombres, il portait une chemise bleue et blanche, et il était connu comme un employé tranquille de la poste ici à New York, sans aucun problème dans le voisinage ou quelque chose.
Est-ce que les policiers américains savent déjà quelles raisons l'ont motivé ?
Il y aurait dans un journal américain un jeu qui consisterait à faire arrêter les voitures sur le papier, en faire descendre les gens et à les tuer. Et quand on arrive à tuer les gens sur le papier, on gagne. Et on pense que cet homme qui serait désaxé peut-être aurait eu connaissance de ce jeu et peut-être aurait voulu en faire une réalité.
Voilà, donc fin d'un suspense insupportable, surtout pour les habitantes de New York, il faut bien le dire. Alors, Michael Mansion, maintenant, on va donner le contexte de cette affaire, de cette arrestation. Il y a une tentative de plus, enfin une tentative malheureusement réussie, hein, il va tuer à nouveau.
Ah oui, jusqu'au bout. C'est-à-dire que lorsqu'il se fait arrêter, il était vraiment temps.
Voilà.
New York est vraiment à genoux, elle n'en peut plus.
Il avait envoyé à la police, puisqu'il écrit au chef de la police, et il lui avait envoyé un message assez sibyllin en disant « Qu'est-ce que vous allez faire pour le 29 juillet ?» Mais là, on est en 77. Le 29 juillet, évidemment, les policiers sont très inquiets. C'est la date anniversaire du premier meurtre, 29 juillet 76. Et le 29 juillet 77, il se passe rien. Tout le monde respire. Et puis le 1er août ou le 2 août, en fait, eh ben, il tue, quoi.
Oui, oui. Et on commence vraiment... Bon, après, c'est en fonction des pistes qui peuvent se recouper. Comme la plupart des tueurs en série, il s'est fait arrêter de manière assez simple, assez anodine. C'est souvent comme ça.
C'est ce qu'on appelle dans les romans policiers le grain de sable.
Alors, le grain de sable.
Cette nuit-là, la nuit de sa dernière agression, il gare sa Ford Galaxy devant une borne à incendie. C'est un délit aux États-Unis.
C'est un délit.
Il y a une voiture de patrouille qui passe. Il va être une contravention. Il sort de sa voiture, il tue, il rentre en courant dans sa voiture, et là, il s'aperçoit qu'il y a une contravention, il la prend, il la jette. Et là, il y a un témoin capital, il y a une femme qui a vu cet homme s'enfuir et qui a vu qu'il s'était débarrassé d'une contravention.
Sauf... Elle promenait son chien pour ses besoins naturels et elle voit ce jeune homme s'engouffrer à toute vitesse, jeter la contravention et elle donne une description et par recoupement, les policiers retrouvent le véhicule, se mettent en planque devant le véhicule et devant l'immeuble où habite son propriétaire, David Berkowitz. Et là, autre erreur, ils voient une arme qui dépasse de la banquette arrière du véhicule.
Oui, il y a un fusil. Bon, enfin, c'est autorisé à New York.
Oui, oui.
Alors, ils ouvrent la voiture quand même, hein, les
oui,
policiers.
Oui, tout à fait. Ouais. Et lorsque je pose la question à Berkowitz, quelques 15 ans plus tard, il me dit qu'effectivement, vers la fin de sa série criminelle, là, il parlait plus du tout de démons ni quoi que ce soit, il se pensait totalement invulnérable. Oui. Donc il m'a expliqué qu'effectivement, il n'a pas pris les mêmes précautions qu'il prenait autrefois, où il garait son véhicule quelquefois à des kilomètres du lieu où il savait qu'il allait tuer. Oui. Et là, il s'est garé à peine à quelques centaines de mètres de l'endroit où il commet son forfait.
Voilà, et on va dire très vite avant la pause, Mickaël Mention, que donc les policiers évidemment voient cette arme quand même dans la voiture qu'ils recherchent, hein, puisque c'est la fameuse contravention, mais ils croient pas franchement être sur la piste du tueur. Ils ouvrent, et c'est là où ils ouvrent la boîte à gants, je crois.
Oui, ils ouvrent la boîte à gants, ils trouvent une lettre dans laquelle ils reconnaissent l'écriture du tueur, une lettre avec un dessin qui représente le maire de New York avec un revolver, et bang.
Voilà, ouais. Donc ils savent que c'est la voiture du tueur, ils font ce qu'on appelle une planque, ils attendent, et puis, tard dans la nuit, Berkowitz sort de chez lui, il va prendre sa voiture, peut-être pour aller tuer, mais là, évidemment, à peine est-il installé que il y a un certain nombre de revolvers qui sont braqués sur lui, vous êtes en état d'arrestation, les mains, etc. Et il dit, bah oui, c'est moi. Je suis le fils de Sam. Dans un instant, après cette dernière pause, avec Stéphane Bourgoin et avec Mickaël Mention, on va vous dire qui était vraiment cet homme, un fou furieux ou un tueur froid et calculateur.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Histoire d'un extraordinaire serial killer américain, le fils de Sam, dont nous parlons avec Mickaël Mention, qui lui consacre un livre qui paraît aujourd'hui aux éditions Ring, et avec Stéphane Bourgoin, qui évidemment, enfin j'allais dire évidemment, évidemment, a rencontré David Berkowitz, celui qui s'est révélé être le fils de Sam, un garçon de 24 ans. Ça a d'ailleurs beaucoup surpris les policiers, l'équipe de psychiatres, parce qu'il y avait toute une équipe, hein, je crois, de psychiatres qui essayent de profiler. Bon, ils sont passés un peu à travers, non ?
Ils sont passés tout à fait à travers. Oui, ils essayaient de faire esprit criminel. Bon. Avant.
Ça, voilà, avant la lettre, ça n'a pas fonctionné. Alors, au bout d'un an et quelques jours, Berkowitz est arrêté, identifié. Il raconte à la police cette histoire délirante de chien berger qui est le chien d'un de ses voisins, qui s'appelle John Carr, Sam Carr. Mais bon, à tel point que comme il y avait quand même dans toute cette affaire des meurtres où les témoignages différaient vraiment de gens très crédibles sur le même meurtre. Enfin, sur deux meurtres différents, il y avait deux témoignages différents. Les policiers se sont demandé si, d'ailleurs, le Sam Carr en question n'était pas lui aussi un tueur qui avait...
Il n'était pas impliqué.
Et c'est votre idée. Quelles sont les zones d'ombre qui restent, Mickaël Mention, pour vous sur cette affaire?
Ça commence d'abord par les déclarations de Berkowitz. Depuis 78, il a d'abord assumé tous ses crimes. Finalement, il les a reniés, et puis finalement, il n'en reconnaît qu'une partie.
Il a dit quand même à un moment, j'ai inventé l'histoire des voix, quand même.
Voilà, il a dit ça aussi.
Il le dit, hein,
et puis, ouais. En fonction des émissions, ouais. Voilà, qui passent aux États-Unis à l'heure actuelle encore, ouais. Il revient sur cette histoire de chien. Le seul point dont il n'a jamais dévié, c'est qu'il a toujours dit qu'il avait croisé la route de satanistes.
Mmh,
donc c'est pour ça que justement je me suis intéressé à ces personnes potentielles, donc pour essayer de savoir quel sataniste pouvait se trouver à New York au moment des crimes, et donc j'ai dû remonter jusqu'à la fin des années 60 en Californie.
Une véritable enquête effectivement dont on reparle dans un petit instant. Est-ce qu'il vous a confirmé, Stéphane Bourgoin, quand vous l'avez rencontré, que cette histoire de voix entendue, il l'avait totalement inventée pour se faire passer pour fou?
Oui, tout à fait. Il me le dit quelques 15 ans plus tard. Il assume tout à fait ses crimes lors de l'entretien que j'ai avec lui.
Enfin, il n'invente pas les voies après avoir été arrêté, puisque ses courriers à la presse et à la police...
Mais il dit que c'est une tentative pour lui, au moment du procès, d'être déclaré irresponsable de ses actes.
D'accord. Bon.
Alors que faut pas non plus oublier qu'avant d'être un tueur en série, c'est un pyromane en série. Oui. Et il a tenu à m'apporter des albums entier lors de mon entretien avec lui, où il y a toutes les coupures de presse qui sont collées dans ses albums, narrant tous les incendies, près d'un millier.
Il tenait un journal de ces incendies. Moi, j'ai découvert ça dans le livre, justement, de Michael Mansour.
Et en fait, je lui pose une question de savoir pourquoi il a tué et pourquoi il a tué des femmes. Et je sais que c'était un... Il avait toujours du mal à répondre là-dessus, et je lui dis, est-ce qu'il n'y aurait pas, quelque part, une certaine forme de frustration sexuelle chez vous, pour ces crimes? Et là, il reconnaît qu'effectivement, il n'avait jamais eu de véritables relations sentimentales, il n'a eu que des relations tarifées avec des prostituées, et notamment lorsqu'il est dans l'armée en Corée, en 1971, il a une relation avec une prostituée, et il attrape une maladie vénérienne, donc il en voulait énormément aux femmes, un peu un profil semblable à celui que l'on accorde à Jacques l'Éventreur en 1888, qui aurait lui aussi tué
que des prostituées pour se venger. Mais là, les femmes qu'il tue sont pas des prostituées.
Non, sont pas des prostituées, mais il a une haine des femmes.
Voilà. Juste un mot sur ce qu'il est devenu là aujourd'hui. Il purge toujours. Il est condamné à 365 ans de prison, je crois.
Il est condamné à 6 peines de perpétuité.
Mais ça a été ramené, je crois, à 300, j'ose dire, à 365 ans de prison.
Voilà. Alors, à la fin des années 80, en 1987, il devient catholique, fervent. Et maintenant, il a adopté comme identité, non pas celle de fils de Sam, mais le fils de l'espoir. Et vous pouvez trouver, ce qui est assez hallucinant, sur YouTube, des entretiens avec lui en vidéo récents, où il parle de sa foi, de ses regrets, et maintenant, il participe à la lutte contre les tueurs en série auprès d'une association de victimes qui est à Houston, pour justement combattre tous les tueurs en série qui vendent leurs mèches de cheveux, leurs rognures d'ongles, leurs dessins sur Internet.
Mais Michael Mansion, malgré tout ce que vient de dire Stéphane Bourgoin, Berkowitz n'a jamais dit « J'ai été téléguidé par une secte satanique ». Qu'est-ce que ça lui coûterait de le dire aujourd'hui?
Pourquoi il a manqué de mourir déjà en 79, il s'est fait agresser. Donc,
On peut penser qu'il se serait fait agresser parce que on redoutait qu'il ne parle et qu'il s'astreindrait aussi. Oui, Stéphane Bourgoin. Parce qu'on arrive à la fin de l'émission.
Les tueurs en série sont extrêmement manipulateurs, et même s'ils sont condamnés à la peine de mort ou à la perpétuité, comme ce Berkowitz, ils veulent montrer qu'ils restent malgré tout les maîtres du jeu. Donc ils décident du moment où ils vont parler ou non, et ils vont continuer à mentir, tout simplement parce que ça fait partie,
de leur
personnalité de psychopathe et de manipulateur.
D'accord. Mais un dernier mot, il nous reste à peine une minute, Michael Mansion, donc cet aspect que vous développez sur les zones d'ombre du dossier, sur les questions de savoir est-ce qu'il était seul à tuer ou est-ce qu'il a été aidé par un ou des autres, est-ce qu'il y avait derrière ça une secte satanique, il faut dire quand même que les arguments étaient assez sérieux pour qu'un procureur, rouvre l'enquête, et elle est ouverte actuellement.
Mais oui, elle est toujours ouverte. Il y a aussi la piste de l'armée, de possibles expériences qui ont été menées. C'est assez troublant, d'ailleurs, dans le livre. Tout ça est appuyé sur des documents officiels. Je reviens dessus parce que l'histoire est quand même très très tendue aujourd'hui. Donc voilà, la question qui se pose, c'est de savoir si Berkowitz est simplement un manipulateur ou si c'est quelqu'un qui s'est fait manipuler.
Voilà, et bien en tout cas ça renforce l'intérêt qu'on peut porter à cette affaire. Fils de Sam, l'auteur Michael Mansion était mon invité avec Stéphane Bourgoin. Le livre vient de paraître aux éditions Ring, c'est déjà un coup de cœur de la Fnac, je le dis comme ça, je vais pas payer pour vous faire de la publicité, mais disons-le quand même. Et vous allez d'ailleurs signer votre livre samedi prochain à 15h à Rosny 2. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que c'est aussi mon coup de cœur maintenant, parce que j'ai lu ce livre. que j'ai trouvé absolument passionnant. Merci infiniment. Merci beaucoup, Stéphane Bourgoin.
Merci, Jacques.
À la prochaine, si j'ose dire. Vous descendez à la prochaine. Non, vous montez à la prochaine, vous. L'émission est terminée. On retrouve Flavie Flamand dans un tout petit instant.